Donc nous allons maintenant parler de la réception de la fin, donc des épisodes 17, 18 de la mythologie globale de Twin Peaks. Donc là, pour resituer, on est à une semaine de la diffusion et de la découverte, donc c'est encore très frais pour pour la plupart d'entre nous. Sylvie, comment est-ce que tu as reçu ce final, en fait, qui a été enfin, deux épisodes, en fait?
Tout à l'heure, je parlais de longue mise en place de la série, c'est-à-dire que vraiment j'avais l'impression, jusqu'à peut-être l'épisode 14, que Lynch disséminait donc des micro-récits, des micro-films un peu partout, que chaque épisode était déjà lui-même très composite, et tu sentais qu'il y a une forme d'accélération nécessaire, parce qu'il y a un moment, il faut bien la terminer. Donc je pense qu'à partir du réveil j'allais dire de Dougie, de Dale Cooper à l'épisode 16, il y a une volonté de Lynch de donner un petit peu aux spectateurs ce qu'ils n'osaient pas attendre, c'est-à-dire une potentielle résolution d'une intrigue qu'on a eu finalement assez de mal à vraiment identifier. Donc, de ce que j'ai lu sur Twitter le lendemain de la diffusion des deux derniers épisodes, lundi matin, il y avait une grande excitation après l'épisode 17 où voilà, il y a une réunion presque de la plupart des personnages principaux à Twin Peaks, avec des scènes, on va dire, assez qui peuvent sembler grandiloquentes, mais qui sont en même temps quelque chose d'assez jouissive. La confrontation de Mr. C, de Bad Coupe,
Bad Coupe.
Avec qui? Avec qui? Enfin, c'est vrai qu'il y avait vraiment aussi.
Avec un homme au gant.
C'est ça. C'est assez hallucinant.
C'est pas lui, mais la raison.
On se croirait dans certains films de Shyamalan, de Incassable, à La jeune fille de l'eau. Il y a vraiment des choses assez dingues dans cet épisode. Moi, j'étais partagé entre perplexité et jouissance, et apparemment les gens qui ont suivi la série ont senti un peu des choses des sensations assez voisines, quoi. Et c'est vrai que l'épisode 18 a laissé pas mal de gens sceptiques. Moi, je trouve cet épisode 18 assez magnifique, mais voilà, je vais laisser les autres peut-être un peu parler, mais voilà, je comprends la perplexité des gens, mais je trouve qu'il finit la série de manière assez
Alors, le truc, je trouve, par rapport aux deux derniers épisodes, c'est que le 17, s'il a satisfait plus de gens, c'est que vraiment, voilà, le 17, c'est la fin de Twin Peaks, la série qu'on a connue, avec vraiment des conclusions comme la mort de Bob, puis d'Evil Coop. Et quand on arrive à. Alors, déjà, moi, quand je suis arrivé à la fin de l'épisode, donc où Cooper regarde sa main et il n'y a plus Laura, je me suis dit, mais ça pourrait être la fin, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous attend? Il reste quand même une heure derrière, où il va nous emmener? Là, déjà. Je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Et l'épisode 18, donc on le voit, et là tout s'inverse. C'est presque une deuxième série à elle toute seule, puisqu'elle rajoute toute une nouvelle dimension qui va nous faire reconsidérer tout ce qu'on a vu avant selon nos interprétations. Et même du point de vue sériel, là je me dis, ok, là Lynch a fini Twin Peaks avec l'épisode 17, et avec le 18, là il est en train de tuer le médium série, quoi. Il n'y a plus rien après. Donc c'est peut-être aussi pour ça, et parce que ça remet en cause toute la série et l'attachement qu'avaient les gens envers les personnages, envers le monde de Twin Peaks, vu qu'on n'est plus sûr de rien, est-ce que ce monde existe ou quoi. Ça a fait râler les fanboys, tant pis pour eux, mais je pense que ça va aussi pas mal stimuler les gens qui s'accrochent pour les 25 années à venir, parce que c'est aussi ce que les gens... C'est ce qui a fait aussi perdurer la série ces 25 dernières années, et c'est finalement la sensation. Peut-être qu'on est destiné à ressortir de chaque saison de Twin Peaks avec une frustration et à vivre avec, mais je pense que c'est une bonne chose, et en tout cas, moi, ça m'intéresse plus une conclusion fermée.
J'ai un peu ressenti la même chose, au point que je me suis demandé en regardant l'épisode 17 si finalement j'avais pas mis le 18 à la place du 17, parce que tout me semblait bouclé finalement, et c'est vrai qu'il offre la fin. Une fin satisfaisante pour la série. Et c'est marrant parce que j'ai dit au début d'émission que j'étais venu à Lynch par Lost Highway, et sur l'épisode 18, on retrouve exactement les mystères qu'on pouvait et les sensations qu'on pouvait avoir devant Lost Highway, c'est-à-dire qu'on retrouve à la fois la route, à la fois ce temps qui semble dissolu, à la fois cette perte de repères avec des personnages qu'on pensait avoir identifiés à un moment. Sauf que là, on les a identifiés depuis 25 ans et qui finalement ne sont pas les personnages qu'on connaît. Et c'est d'autres personnages avec d'autres pistes fictionnelles, avec cette possibilité d'une boucle temporelle ou d'un univers qui est complètement autre, et avec ce basculement entre le rêve On nous dit plusieurs fois au cours de la série que c'est Philippe Jeffries notamment qui revient, donc le personnage incarné par David Bowie, qui dit qu'on est dans un rêve et qu'on vit dans un rêve, à un monde qui semble avoir d'autres codes cinématographiques. Moi, je ne sais pas si on est dans la réalité, effectivement, dans cette dernière partie de série, mais en tout cas, on est effectivement dans un univers qui n'est pas celui qu'on a suivi pendant toutes ces heures de série et de Twin Peaks. Donc du coup, j'ai bien aimé aussi ce basculement et ce retour sur la filmographie vers d'autres horizons donc de Lynch. Donc, moi, ça m'a beaucoup rappelé Lost Highway, avec cet élément qui est que toute la série aussi rappelle toute l'œuvre de Lynch telle qu'on en a parlé.
Ce qui est intéressant, c'est que on pourrait craindre, enfin, moi c'est ce que j'aurais craint justement, qui risque de clore la série en forme de la bouclée. Or, il fait rigoureusement le contraire, c'est-à-dire qu'il offre le champ des possibles, quoi. Finalement, il ouvre de nouvelles dimensions, il ouvre de nouvelles portes. Mais finalement, je me suis demandé, la fin de la deuxième saison, est-ce que c'était pas ça qui faisait un peu, avec cette fin en suspension, c'était un peu ce qui faisait ça, ce qui m'a donné évidemment l'espoir possible d'une possible quatrième saison avec un côté un peu à suivre, parce que c'est vrai qu'il ouvre tellement de nouvelles portes certes, il fait travailler notre imagination et il nous permet de faire travailler notre imagination, et c'est vraiment là qu'est tout l'art de Lynch, mais également il nous donne un nouvel espoir de peut-être quelque chose d'autre après.
Puis la série finit sur un cliffhanger. C'est la seule fois où il utilise les codes sériels habituels. Il te fait un cliff sur la fin, comme il a fait il y a 25 ans. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce final en deux parties, c'est que il te construit quelque chose sur, il te construit quelque chose encore sur les attentes des gens dans l'épisode 17. Il va satisfaire cette attente en donnant ce que les gens semblent attendre, c'est-à-dire la résolution, le méchant est bousillé, tout le monde se retrouve dans le commissariat, etc. Twin Peaks, tout le monde est là, c'est super. Les Mitchum Brothers comprennent pas trop ce qui se passe, eux, ils disent waouh, on sait pas, ouais. Ils sont tous là. Et à ce moment-là, il y a le happy end. Et à ce moment-là, il y a le visage de coupe en surimpression. Et là, on se dit, oh là, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fantasmé? Est-ce que c'est pas nous, finalement, qui fantasmons ce happy end, etc. Et là, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, on se rappelle qu'il y a encore une heure derrière. Et on se dit, ah, merde, là, il va encore nous berner. Il va nous emmener ailleurs. Et c'est ce qui est génial, c'est que il ferme pas la porte. Il ferme pas la porte et c'est pas définitif, voilà, c'est pas un adieu, c'est pas voilà. Lynch se dit on va continuer la route, on va continuer la route, vas-y, coupe-moi.
Par rapport à justement la manière dont Lynch nous emmène un petit peu sur des routes obscures,
sur la route, littéralement.
C'est ce que j'allais dire, c'est que il passe quasiment 20 minutes comme ça à nous emmener sur des routes, on sait pas où on va, et même lui, on peut se dire 20 minutes, c'est quand même long, quoi, quand il s'arrête à la station service et tout. On peut se dire Lynch est vraiment en train de jouer avec le spectateur, quoi.
Il le fait avec Diane et il le fait avec Laura après, donc deux fois, couple est sur la route.
Ça nous emmène quelque part, même si après ça nous emmène à Twin Peaks. La première fois, c'est ok, bon, il y a 430 km, une pierre de coups, machin.
Ça nous ramène au premier épisode.
Ça nous ramène à une vraie mission. Alors que, à la fin, quand il est avec Laura, qui n'est même pas Laura, qui est Carrie, on est dans le doute, on se dit, cette personne, c'est peut-être même pas Laura.
Mais c'est intéressant parce que Laura qui regarde, elle regarde un peu ce qui se passe autour et elle parle un peu d'elle, elle parle un peu de sa vie, elle parle un peu de son passé, etc. Alors que Coupe, très peu, mais elle regarde elle. Alors que Coupe est, hop, Coupe il est en ligne droite, il regarde la route, il détourne pas le regard. Et je pense que ça peut être assimilé à Lynch qui trace sa route et il ira lui où il a envie d'aller, quoi.
Voilà. Et peut-être qu'il nous la fera partager.
Mais il nous l'a fait partager. C'est ça que je regrette un peu dans la perception de cette saison 3, c'est que certains perçoivent le truc comme un truc hermétique, prétentieux, Alors que j'ai rarement vu aussi généreux, aussi. Il y a plein d'amour, quoi. C'est plein d'amour, Twin Peaks saison 3. Et je comprends pas qu'on puisse avoir cette vision-là de cette saison, en fait.
Et alors, l'image, sans compter que pour le dernier épisode, l'image finale joue de la référence, puisque évidemment, on peut tous essayer de deviner ce que chuchote Laura à Dale Cooper sur la fin, Laura ou pas.
Sur le générique de fin.
Sur le générique de fin, en se rappelant évidemment du rendez-vous dans 25 ans initial, quoi.
Il nous promet rien, mais il nous invite quand même à
une suite est désirable.
Une suite est désirable de toute manière, mais en tout cas, il y a un jeu. Pour moi, le générique de fin est vraiment un jeu avec ça.
On parlait de lâcher prise tout à l'heure, et c'est quelque part, c'est Lynch qui n'arrive pas forcément à lâcher Twin Peaks finalement lui aussi, et qu'il nous dit quand même, bon, peut-être qu'il y a une porte qui est un petit peu entrouverte, peut-être que j'y reviendrai.
Moi, j'ai aussi l'impression que c'est une fin qui est satisfaisante en soi, même une double fin doublement satisfaisante du coup. Après, j'ai l'impression que Lynch aurait des choses à dire encore sur Twin Peaks, sur cet univers, sur cette mythologie. Kefren ?
Oui. Ben, moi, ce serait parler du côté méta et ultra méta, dans la mesure où Twin Peaks serait une sorte de messe de désenchantement du monde qui revient comme ça. Et les deux derniers épisodes seraient en quelque sorte la messe finale qui, après avoir subi tout le processus cérémoniel, on serait assez mûrs pour réaffronter le désenchantement du monde, qui est le dernier épisode, qui est totalement morne, qui a l'air de se passer dans la nuit complète et qui correspond en fait, si on recherche, à notre réel, en fait, la maison où va Cooper à la fin, la femme à qui il parle, c'est la vraie femme qui habite dans cette maison. C'est-à-dire le monde dans lequel David Lewis nous laisse, c'est le réel, et c'est ce monde qui est contaminé par l'entité qu'ils appellent Judy, qui est la sorte de mal qui règne pendant toute la saison et qui semblerait être la cause de tous les malheurs.
Je dis un mot sur le rapport au réalisme. Moi, j'en suis pas tout à fait convaincu, parce qu'il y a quand même des éléments de narration fictionnelle qui sont là. Le personnage qui est plus Laura a un cadavre chez elle. On est quand même dans des éléments. Ensuite, on est dans un road movie avec est-ce qu'ils sont pris en filature, est-ce qu'ils le sont pas. Du coup, il y a des éléments et d'une codification du film de genre qu'on retrouve dans cet univers. Donc pour moi, on n'est pas non plus dans la réalité.
Oui, mais ça, tout sonne faux. Même quand Cooper, par exemple, il arrête les mecs, les trois gars dans le bar et tout, il le fait presque automatiquement. Il le fait automatiquement. C'est-à-dire, il y a aucune tension, aucune scène. Il les bat comme si de rien n'était. Et même il appelle la serveuse, il le fait de manière automatique.
Est-ce qu'il le fait pas parce qu'il est un peu contaminé et que ça rappelle un peu Evil Coupe, quoi, en gros?
Mais justement, c'est la contamination, c'est le réel, c'est plus extraordinaire de faire ça, ça arrive, ouais, c'est tout.
Je sais pas, moi je trouve qu'on est plus dans, on est, pour moi, on atteint plus le réel, pour moi, même jusqu'au cri final de Carrie, Laura.
Allez. Moi je me dis que la fin, ça peut être le réel, mais le réel, à partir de là, déjà, il est contaminé par Twin Peaks, vu qu'on est dans un monde où Twin Peaks existe. Mais après, Lynch, il est plus schizophrène aussi dans son rapport à la série et au réel, c'est-à-dire que il veut peut-être briser le quatrième mur et nous ramener à notre réalité du monde du spectateur, justement en montrant un monde beaucoup plus terne, mais comme on l'a dit, il peut pas s'empêcher non plus de mettre des références à la série. C'est pour ça qu'il appelle les proprios, papa, leur nom de proprio. Bon, après, peut-être aussi qu'il voulait pas faire chier les proprios, les gens vont les chercher dans l'annuaire et tout. Mais
ils doivent déjà être un peu embêtés.
Peut-être. Mais en tout cas, voilà, il les a appelés Chalfont, Trémonde. Il y a le restaurant qui s'appelle Judy, blablabla. Bla, bla. Donc on sait que il veut jouer sur ces jeux de réponses entre les noms, un peu comme il le faisait avec Mulholland Drive, où les noms se répondaient et où le rêve la réalité influence le rêve et réinterprète, ou en les sublimant, en les déplaçant et tout. Et c'est pour ça que cette fin, elle peut être lue de différentes manières, puis je pense qu'on va y revenir. Mais voilà.
Non, mais le rapport à Mulholland Drive est assez juste, parce qu'il y a aussi cette, et dans beaucoup de films de Lynch d'ailleurs, il y a cette dichotomie entre un univers fantasmé. Et là, on nous dit, ça serait tout ce que vous avez vu avant cet épisode 18 et un univers qui est plus réaliste. Mais pour moi, même dans Mulholland Drive, le réveil de Naomi Watts, donc après donc la scène du théâtre, ne se fait pas dans la réalité. On ne peut jamais être dans la réalité dans un monde cinématographique. Et je pense que Lynch en a aussi conscience. Et pour moi, on reste dans un monde très oui. cinématographique, très encore
simili réel un petit peu.
Oui, oui, mais c'est pour ça que
c'est un empire. Enfin, c'est super longtemps que je l'ai pas vu. Hein. Mais je crois que c'est vers la fin où, où on se retrouve face à une clocharde en fait
sur Sunset Strip, je crois en plus,
ouais.
Ou Hollywood Boulevard ou un
là,
truc
y a,
comme ça.
Y a, alors que il était dans la représentation effectivement quoi, de la fiction, on se retrouve là avec enfin tout d'un coup le réel qui apparaît, qui est au final enfin tout aussi trash, les scènes de violence quoi.
Moi ça me paraît cohérent qu'il y ait cette espèce de logique parce que en même temps Lynch réapproprie l'image comme une espèce de matériau spirituel etc, et c'est pour ça par exemple qu'il retourne à des expérimentations formelles qui sont de l'ordre presque du bricolage, des choses comme ça, comme s'il y avait une matière qu'il était en train de travailler qui était plus que ce que l'on voyait, qui était l'image en soi, l'image comme monde mental en fait, et qu'il diffusait justement aux spectateurs, et il y a quelque chose de très spirituel comme ça qui est brassé. Et je le dis parce que Frost aussi il croit à ce genre de choses en fait, au genre de Hollywood du début avec de l'occultisme et de la théosophie et des choses comme Aleister Crowley et Anton LaVey. En fait il croit à la puissance de l'image comme matériau spirituel etc, et c'est pour ça qu'il l'investisse de cette manière, et même avec des expressions qui semblent cheap mais qui en fait font ont un sens de la manière dont ils sont utilisés.
Moi ce qui m'a intrigué tout au long du visionnage de cette troisième saison, c'est que je me suis rendu compte à quel point fondamentalement il n'y a pas de réel dans le cinéma de David Lynch, c'est-à-dire que le réel intègre de toute manière d'ores et déjà l'anomalie est peut-être ce qu'il y a de plus naturel dans le Lynch d'aujourd'hui, en tout cas peut-être moins à l'époque de la première série. C'est-à-dire qu'il y a des effets spéciaux dans le monde même. Lorsqu'on voit Dougie Jones arriver au casino, il y a des effets spéciaux, il y a ces visions qui se manifestent. Mais même tout au long de la série, quoi, on voit apparaître des figures qui sembleraient des figures fantastiques dans un autre film, chez un autre cinéaste. On jouerait à fond la carte du mystère, là où j'ai l'impression qu'il n'y a rien de plus familier que l'existence, par exemple, d'une femme avec un visage inexistant, ou des choses comme ça. C'est-à-dire que je crois qu'on accepte de jouer le jeu de cette série qu'à la condition d'accepter l'idée que fondamentalement l'anomalie est la chose la plus familière qui soit. Donc finalement, même s'il y a des séquences dans la Black Lodge etc, il n'y a pas forcément de schisme entre ces séquences plus clairement, on va dire, qui sont plus clairement de l'ordre de la représentation, et les séquences en décor un peu naturel. C'est-à-dire que voilà, on est toujours entre le merveilleux des apparitions des femmes très glamour et le cauchemar. Et voilà, c'est ce qui, pour moi, rend finalement la fin assez acceptable. C'est-à-dire que, qu'importe finalement que l'affaire soit résolue ou pas, dans le sens où on ne peut pas apporter de conclusion à la fable ou au conte Twin Peaks. Il n'y a pas de « ils se marieront et auront beaucoup d'enfants ». Que McLellan retrouve Laura Dern, que Diane retrouve Dale Cooper, finalement, les deux hypothèses tiennent ensemble. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment ça. C'est un travail d'hyperconnexion de tout avec tout. C'est un travail de tout et dans tout. C'est aussi pour ça que les interprétations en elles-mêmes m'intéressent peu. Enfin, elles peuvent m'intéresser au départ, mais quand ça va beaucoup trop loin dans la volonté de trouver des pistes, moi, j'ai tendance à lâcher pour simplement me fondre dans la matière même de ce qu'est Twin Peaks, fondamentalement. Donc, un travail Jérémy disait que c'était quelque chose qui n'était pas prétentieux, c'est vraiment ça, quoi. Il nous demande tout simplement d'accepter de nous immerger dans de la fiction totale, de la fiction absolue. Et personne ne fait ça aujourd'hui, je pense.
Et pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'aussi Lynch, il a conscience que les images ont façonné aussi l'esprit et les cerveaux du monde entier, depuis l'invention du cinéma au moins. Parce que clairement, ce que voient les personnages, la manière dont ils perçoivent le surnaturel, c'est toujours montré de manière très cinématographique, c'est-à-dire par des frises, des bugs, des grésillements, des bruits d'électricité, oui. Des manières de montrer que le surnaturel chez Lynch, c'est le cinéma en fait. Enfin, oui,
c'est pour ça que c'est l'électricité qui conduit tout.
Et c'est pour ça que voilà, le cinéma, c'est à la fois la source du surnaturel, mais aussi une manière de refaçonner les cerveaux et de créer une pensée globale. Et après, si on part dans les interprétations New Age, on s'en sort pas,
c'est vrai qu'il y a cette croyance magique dans le cinéma de Lynch, Là, je lis aussi le roman d'Alan Moore, Jérusalem, dans laquelle il y a cette même filiation. D'ailleurs, Moore cite dans Providence, donc la bande dessinée qu'il a écrite à partir des ouvrages de Lovecraft, Lynch, à un moment dans une généalogie de ces artistes magiciens qui arrivent par leur art, finalement, à refaçonner le réel. Donc il parle de Borges, de Lovecraft, Lynch, lui. Et c'est une impression que j'ai eue, notamment quand je suis allé revoir Firewalk With Me, donc le film, qui est sorti en salle. Et le travail sur le son est tellement impressionnant, surtout quand on le voit en salle, qu'en sortant du cinéma, donc j'étais au MK2 de bibliothèque, effectivement, ma perception du son et des bruits était totalement refaçonnée en fait, par l'immersion que j'avais eue dans le travail sonore de Lynch. Et effectivement, il y a ça, cet aspect magique qui fait que les images qu'on voit, la mythologie qu'on crée en regardant une série, refaçonne notre manière de voir le monde. Et finalement, cette manière de voir le monde influe sur le monde lui-même et le change en lui-même aussi.
Et je suis d'accord, et c'est pour ça que pour moi c'est la série par excellence du lâcher prise total, c'est-à-dire la série où si on se braque, on ne rentre pas dedans. C'est la série également où l'effet spécial est montré quasiment en tant que tel, comme outil du merveilleux, comme outil artistique, c'est-à-dire que l'effet spécial, on peut le juger cheap si on veut. Moi je crois qu'il faut mieux le juger comme simplement beau, comme quand Lynch fait du collage. Et il retourne totalement au niveau du visuel aux origines de son cinéma depuis Grandmother par exemple. Du cinéma, mais à fond du sien également, dans l'art de ces espèces de marionnettes monstrueuses, de l'arbre avec le bras qui parle, de effectivement tout le visage qui disparaît. On voit bien comment il disparaît, mais c'est juste beau. On se fout de se dire si c'est mal fait ou pas. C'est juste un outil à la fois de rêve et d'art, en fait.
Je pense qu'on veut parler un peu de la mythologie et de l'image de l'épisode 8 par rapport
à... Justement, je voulais y venir. Pour moi, l'épisode 8, c'est vraiment c'est mon interprétation, mais après, libre à chacun. C'est vraiment la cosmogonie lynchienne, quoi. C'est la naissance de toute son œuvre et tous les mots qui vont venir hanter tous ses films et sa série. Et par rapport aux interprétations, on peut croire que cette grosse créature dans le ciel, c'est peut-être Judy, qui balance ses œufs et qui va venir mettre des insectes dans la bouche des gens pour les contaminer par le mal, et créer Bob par la même occasion. Mais est-ce que c'est aussi parce que... Elephant Man se passe avant les années 50, donc on va mettre Elephant Man à part. Mais le reste de sa filmo... Est-ce que finalement, ça pourrait pas être des embranchements qui ont été créés dans cette formation de l'univers lynchien, fait avec l'épisode 8, qui lui-même a une place spéciale dans la saison, puisqu'il est totalement... au début, ça commence avec la mort temporaire de Evil Coop, mais après ça, on part vraiment dans un court-métrage à part entière, quoi, qui donne à la fois des clés sur la saison, mais pour moi, dit aussi beaucoup... par rapport à toute l'œuvre lynchienne, parce que c'est là aussi où il revient à ces formes d'expérimentation, que ce soit sur Eraserhead, dans d'autres formes de courts-métrages qu'il a pu faire pour son site ou ailleurs. Et je pense que c'est un épisode vraiment clé dans toute sa filmographie.
Clé et autonome en même temps. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont voulu chercher un retour à cet épisode 8 qui ne viendra finalement jamais vraiment. Certaines personnes se disent, c'est cette espèce... d'homme qui va massacrer un peu tout le monde dans la station de radio. Est-ce qu'on le reverra? Je crois qu'on le revoit vaguement, mais je suis même pas sûr.
Il y a un moment il fait un peu partie du paysage avec les autres espèces de hordes qui à chaque fois que Matt Cooper flinguer, ils reviennent.
Il monte dans la station, il le voit et il disparaît petit à petit.
Oui, encore une fois, il te lance une
pelle. Il y avait déjà un Woodsman en prison dans l'épisode 2 quand.
Deux fois, on le voit deux fois celui-là. Une fois en prison et une fois.
À côté d'Hastings, quand Hastings est en prison.
Il y a un moment quand.
C'est le fantôme de la série.
Quand il y a le jeune homme suicidaire, je ne sais plus si c'est l'épisode 15, dans la forêt avec sa copine. Et qu'à un moment, il a peur, ou elle a peur, je ne sais plus exactement, en voyant une sorte de woodsman qui apparaît. Il y a des petites choses comme ça qui semblent relancer la machine, mais dont on n'est même pas totalement sûr de... Est-ce que ce n'est pas nous qui spéculons totalement? Est-ce que c'est pas... j'ai l'impression que les personnages de la série sont tellement eux-mêmes déjà spectateurs de ce qui se passe sous leurs yeux que finalement, on est... j'ai l'impression qu'ils sont aussi paumés que nous. Et j'adore cette manière qu'il a finalement de... rares sont les fictions qui donnent aussi la possibilité de voir des personnages eux-mêmes incertains de la réalité de ce qui se passe. Voilà. Là où généralement dans la fiction, aussi bien cinématographique que sérielle, tu vois des personnages convaincus, des personnages efficaces, on dit beaucoup « crois en toi » et tu vas... On est un peu à la recherche de l'efficacité quelque part. Un héros doit forcément être quelqu'un qui trouve sa voie et qui va la suivre. Tu regardes toutes les séries de super-héros, de Flash à Supergirl, on tourne un peu toujours autour de ça. Là, dans Twin Peaks, on est
au contraire dans...
C'est
pas les meilleurs que tu cites.
C'est sûr. On est beaucoup plus dans la soustraction, dans l'inefficacité. C'est aussi pour ça que le personnage de Dougie Jones est aussi intéressant. C'est un personnage impuissant. Le seul moment où il est passif, le seul moment où éventuellement il sera un peu héroïque, c'est quand il empêchera le nain de le tuer. Mais finalement, c'est ça, quoi.
Il y a un personnage, justement. Tu parlais de séries super-héroïques. Il y a un seul personnage qui est convaincu, c'est Charlie. Celui qui a son gant.
Ouais. Ah, c'est et lui, c'est totalement le perso super-héroïque qui sort de nulle part.
Et justement, c'est le personnage super-héroïque, le personnage de fiction habituel qu'on a l'habitude de voir.
Il a une mission.
Ouais. Qui a été loué d'un pouvoir et qui a une mission.
Et voilà. Lui, on sait où il va aller, on sait ce qu'il va faire. Et même à la fin, Coupe lui dit, on ne sait pas d'où il le connaît, mais il lui dit, et Charlie, tu sais ce que tu dois faire.
Ouais.
Tu sais, toi.
Et c'est vrai qu'il détonne complètement, effectivement, de l'impuissance globale des personnages de cette série. Lorsqu'un enfant se fait écraser, il est déjà trop tard et la seule chose que peut faire Vince Tonton, c'est de se rapprocher de la mère désespérée et de lui apporter son humanité la plus simple. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui est assez désarmant et bouleversant dans cette série, aussi dans le fait de voir Bobby Briggs devenu un shérif quadragénaire grisonnant.
C'est le cowboy moderne.
C'est
ce côté, quoi.
Tout est passé finalement.
Il y a le cowboy blues.
C'est le lâcher prise, quoi. C'est vraiment là, encore une fois, lâche l'affaire, quoi.
On retrouve presque une histoire vraie aussi. Enfin, il y a vraiment quelque chose de...
Harry Dean Stanton, c'est complètement... C'est une histoire
vraie. Ouais, ouais.
Il y a toujours eu ce lien à l'Americana chez Lynch et au blues de l'Americana en permanence.
Ça aide aussi, dans sa solitude aussi.
Exact.
Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de héros à part... Pour moi, c'est un regard un peu ironique sur la vague de super-héros qu'il fait. Il se moque en faisant un truc très très cheap, mais une origin story qui est quand même extrêmement convaincante, je trouve, et plutôt
son récit est pris.
Perso, c'est ma seule réserve de la saison. J'aime pas trop ce personnage, ni la place qu'ils lui ont donnée. Avec le gant.
Mais par contre, s'il n'y a pas de héros, je trouve que Dougie est quand même un révélateur de la bonté d'autrui, en fait. À chaque fois, le personnage, effectivement, juste en répétant une phrase...
Que ce soit Tom Sizemore ou son patron...
A révélé ce qu'il y a de mieux chez son interlocuteur en face, qu'il essaie de tuer, qu'ils essayent que ce soit des petits malfrats. Et du coup, il y a quand même quelque chose... Alors, pas d'héroïque, mais en tout cas, d'une certaine humanité qui se révèle grâce au personnage d'innocence.
Et puis, il est héroïque malgré lui, quand même. Il y a énormément de choses qui se résolvent malgré lui, sans qu'on comprenne même comment il réussit à résoudre les choses.
Quand il dit à son patron... Regarde un peu mieux dans tes fiches, il est tout seul, le patron il fait ah oui mais t'as raison en fait.
Il voit des lumières au-dessus des jackpots et il dessine n'importe quoi et ça passe
En fait il révèle les choses de manière quasiment alchimique et c'est là qu'on peut-être penser effectivement à des références occultistes ou des choses comme ça.
Est-ce qu'on peut pas se demander si, parce que pour moi ce personnage c'est un peu le miroir de Lynch, alors bon bien sûr Lynch peut-être qu'il s'aime un peu trop, je sais pas, mais vu que c'est le genre de mec qui dit qu'il chope les idées en plein vol et que ça crée des films qui sont merveilleux. Est-ce que c'est pas un petit peu la même chose avec Dougie qui finalement voit des lumières au-dessus des jackpots et puis ça rapporte des millions, quoi.
On peut parler de la manière dont Lynch aussi se met en scène dans cette série, c'est-à-dire qu'on l'avait découvert assez tardivement, d'ailleurs je crois dans la première série. Je crois qu'il y a que c'est dans la deuxième saison qu'il apparaît, si je me trompe pas.
Oui,
c'est déjà savoureux ce professeur tournesol dur d'oreille. Là, on le voit beaucoup plus finalement.
C'est le héros en fait. Souvent.
C'est quasiment le second héros.
Il est moins dur d'oreille, il entend mieux.
C'est vrai qu'étonnamment, il y a des moments
à la technologie,
on dirait presque en filigrane un maître du jeu, quoi. Enfin,
c'est ça qui est assez troublant.
Il se met en premier rôle en fait finalement presque.
C'est ça, se met vraiment beaucoup en avant.
Son œuvre est au premier plan.
Et puis c'est le chef, c'est celui qui dirige les forces du bien.
C'est ça, c'est le guide, même final.
C'est le chef des Avengers.
Et avec un potentiel de séduction assez, assez, c'est éblouissant.
Mais c'est aussi le seul qui a une scène de rêve montrée. C'est le seul qu'on voit son rêve.
Avec le personnage de Bayouchi.
Le seul où on voit son rêve. Et en plus, on voit son rêve qui se passe avec une personne réelle, avec son prénom réel. Et
c'est la scène avec Monica Bellucci.
Oui.
Qui, la pauvre, par contre, est un peu éclipsée, puisqu'il y a le retour de David Bowie juste derrière. Du coup, c'est vrai. Enfin, moi, je me rappelle aussi, surtout de.
La seule apparition de Bellucci est quand même forte. C'est-à-dire qu'entre le moment où on dit. Tiens, j'ai pensé ou rêvé de Monica Bellucci, où tu vois apparaître effectivement Monica Bellucci. Il y a quand même quelque chose d'assez fort. Tu te dis,
c'est le fantasme,
fait, quoi. Il a osé.
Puis, en plus, à part, on en parlait avant le podcast, mais Bellucci, je crois que dans sa filmo, c'est le seul rôle qui, dans un film ou dans une série qui tient son propre rôle en dehors des groupes musicaux, quoi. Donc, je pense que le fait que ça nous ramène peut-être que les rêves dans Twin Peaks sont finalement notre réalité. Peut-être qu'après, il faut faire les liens et voir le final, enfin, tout l'endroit où se passe le final dans une autre dimension et les rêves d'Audrey aussi, je ne sais pas, mais ça, après, il faut interpréter. Mais c'est vrai que cette scène, surtout qu'en plus, elle est en noir et blanc, donc ça la place aussi ailleurs. Je pense que ça soulève des questions.
Mais du coup, c'est vrai que c'est comme si Lynch nous disait, si j'ai rêvé de Monica Bellucci, je peux la voir aussi dans Twin Peaks, il y a aussi ce côté-là. Et c'est une question qu'on se posait d'ailleurs, est-ce que Twin Peaks est une série méta ? Lynch semble dire non.
Ouais, Lynch, finalement, je suis pas sûr qu'il aime trop le méta, mais je pense que peut-être que... Parce que le méta, aujourd'hui, dans beaucoup d'œuvres, c'est devenu aussi une forme de cynisme, et ce qui me dérange pas mal, mais je trouve pas que ce soit le cas quand le fait Lynch. Je pense que c'est vraiment des questionnements assez, assez justes par rapport à la place du spectateur, aux attentes par rapport à une série et au médium série en lui-même, dans quelle forme il prend.
Et... surtout, c'est ça qui est important, c'est voilà. Qu'il met pas, on dit toujours qu'il met le spectateur de côté, etc., mais en fait c'est un dialogue avec le spectateur, la saison 3, et il se sert du méta justement pour instaurer ce dialogue et pour faire le pont entre.
Je peux pas croire qu'une scène comme celle où Dougie avec son patron, il lui met les papiers, il lui fait make sense out of it, ça n'est pas un double langage.
Bien sûr.
Mais après, c'est peut-être aussi la part de Mark Frost, on ne sait pas vraiment qui a écrit quoi. Mais pour moi, il y a clairement du méta comme il peut y en avoir dans les comics avec Watchmen d'Alan Moore ou voilà.
Mais c'est du méta spontané, c'est du méta fluide,
c'est pas calculé,
en fait.
Hein. C'est pas cynique.
C'est-à-dire que c'est du méta où on sent pas la référence, c'est juste totalement digéré et intégré dans un flux, en fait. C'est là où ça fonctionne.
C'est une réflexion, c'est un dialogue, c'est pas du petit malin, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est important.
C'est la première fois également qu'on voit de multiples références à d'autres œuvres. Donc, on parlait de Fincher, par exemple, dans une scène quasiment ironique par rapport à la scène de fin de Seven où c'est.
Tarantino via Jennifer Jason Leigh et
Tim Roth.
Ils ont une mort Tarantino.
Oui, d'ailleurs,
cette scène est absurde, mais c'est énorme.
C'est une scène tarantinesque de ouf. Justement, mais comme l'épisode 8 qui fait référence à toute l'œuvre de David Lynch et même à ses influences, il y a plein de
petits clins d'œil.
Ouais, il y a même la petite banlieue
où vivent Naomi Watts et son fils. On dirait la banlieue de Albuquerque, les petites rues de Breaking Bad.
Oui, exactement.
Ça pourrait être aussi le début de Blue Velvet, hein, tu sais, justement la petite banlieue américaine sans histoire qui cache et qui a aussi donné le point de départ de Twin Peaks. Mais
petit clin d'œil comme ça, quoi, c'est assez intéressant.
On y revient justement, mais l'utilisation de Laura Dern, c'est vraiment cette référence aussi qu'il y a à son propre cinéma, à ses propres acteurs, une manière peut-être de leur dire. De leur rendre un hommage, suivant la carrière qu'ils ont pu avoir, de leur dire au revoir.
Puis à la fin, quand il prend par la main Laura Dern et Kyle MacLachlan, tu peux pas penser que
c'est Lynch avec ses acteurs fétiches, ses deux acteurs fétiches qui avancent vers l'inconnu.
Et d'autant que, ça je maintiens, ça n'a pas une vraie cohérence narrative par rapport à la fin de la saison 2, où il y avait le personnage d'Annie, je ne sais pas si vous souvenez, qui était donc la cousine à ce moment-là de
Dale Cooper.
De Dale Cooper, et qui du coup est complètement occulté de cette saison pour faire place effectivement au personnage de Diane. Du coup, parce que aussi on l'attend, et peut-être que Lynch a envie de montrer cette aussi. Relation plutôt que.
Ou est-ce que c'est pas Lynch puis
Fisher Graham est arrivé, je crois, dans la deuxième moitié de la saison 2, qui est pas forcément.
Voilà. Est-ce que Lynch voulait pas aussi effacer le passé en quelque sorte parce qu'il y a des persos qu'il a pas voulu intégrer et que. voilà, qu'il n'a pas voulu intégrer. Donna aussi, on se demande.
Alors, oui, mais par exemple, Annie est dans les Missing Pieces, donc les scènes coupées du film. Oui. Du coup, elle a quand même une existence dans un univers que Lynch contrôlait.
Ouais, c'est, normalement, c'est canonique aussi.
Elle a une courte séquence dans Firewalk With Me, de toute manière, on la voit brièvement.
Mais c'est vrai qu'on parlait beaucoup tout à l'heure de l'exploitation de Audrey Horne, et c'est vrai que le personnage de Donna, je crois, n'est même pas évoqué dans cette saison. Et Michael Lumpkin apparemment est en retraite, donc n'a pas voulu revenir. Oui. Et il travaille beaucoup tout au long de la série sur la confusion entre son frère, joué par l'excellent
Robert Foster,
effectivement, qui doit systématiquement rappeler qu'il n'est pas l'ancien, mais il y a quand même toujours un renvoi à
Robert Foster était le premier choix pour le rôle avant qu'il prenne Michael Lumpkin à l'époque.
D'accord. Alors, ça, si c'est pas méta.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Donc, non, mais voilà, ouais, c'est... Non, je sais même pas pourquoi je parlais de ça, mais c'est vrai que c'est cette espèce de renvoi régulier quand même à la petite nostalgie des spectateurs de la série d'origine. Et
le choix de laisser le destin de certains persos totalement dans l'obscurité, on ne reparle pas de Piper Laurie, donc de Heather Graham et de je ne sais plus quel autre personnage. Et à côté de ça, on va reprendre des personnages qui reviennent que pour 2-3 scènes, et finalement, c'est très anecdotique. Alors, je pense que tout, que ce soit les frères Horn ou quoi, mais il y a un choix aussi de laisser un blackout total autour de certains personnages, et on peut se demander, surtout qu'il y a des acteurs qui ont montré qu'ils voulaient revenir. Enfin, je sais que Joanne Chen voulait revenir, Piper Laurie avait aussi et Heather Graham avaient montré leur volonté de revenir, pas comme Michael Anderson et justement l'ancien chef Truman, Michael Ankin, qui eux qui avaient pris leur retraite. Alors pourquoi avoir choisi tel personnage qui n'ont pas forcément une grande signification, et après avoir refusé de faire revenir des acteurs qui voulaient revenir, même ne serait-ce que pour une scène, pour conclure en storyline ou nous dire voilà ce qu'ils sont venus, parce que finalement Annie, même si en se basant sur les Missing Pieces on peut croire qu'elle a survécu, on n'a pas vraiment de vraie conclusion, quoi. Donc il y a toujours.
Elle est pas en très bon état quand même.
Ouais.
La fin de Missing Pieces. Bon,
et pareil pour Lara Flynn Boyle. Bon, ils auraient pu reprendre Moira Kelly qui a beaucoup mieux vieilli.
Ah, c'est vrai qu'elle est un peu refaite là.
Non, mais voilà. Enfin, je pense que Donna était un personnage central. Ils ont fait revenir tout le clan Horn. Alors, vu que Ben Horn était le père de Donna. Après, peut-être que c'est une storyline de la saison 2 qu'il aimait pas trop.
Et on voit brièvement le père de Donna via.
Oui, le docteur Ewan, mais parce que c'est le père de Mark Frost.
Ah ouais, c'est
et bien. Il est mort aussi
pendant le tournage. Ouais.
Donc, il était facile à revenir, il a fait un petit hommage à papa. Mais
c'est vrai que la famille même de Donna, effectivement, n'existe pas vraiment dans cette troisième saison. Et on revoit la mère, Sarah Palmer, pour le coup, on la revoit aussi. Ouais. Il y a aussi une piste assez intéressante de Sarah Palmer. Qui n'aboutit finalement à rien, mais qui est quand même assez intéressant.
On va pas revenir à l'épisode 8, parce qu'on est.
Pour moi, ça aboutit pas à rien. C'est juste que c'est pas explicité, mais il y a beaucoup de choses à dire sur. À mon avis, elle a un rôle clé, Sarah Palmer.
Sa dernière apparition haineuse, finalement, vis-à-vis de sa fille.
Elle est possédée par Judy.
Mais c'est l'anti-Dougie, justement, dans leur traitement. Genre. Elle, on dirait que. Alors que justement Dougie revient. Cooper revient neuf et tout ça, et innocent. Elle, c'est comme si elle était rongée par le mal du truc depuis.
De son mari, notamment.
Oui, depuis 25 ans. Et même, il y a une scène où on te montre que justement elle est coincée dans ça, c'est que.
Le truc qui se répète.
Elle regarde à la télé une scène qui se répète indéfiniment comme ça, et elle fait que boire et acheter.
La scène où elle plante la photo. Pareil que c'est aussi des bribes montées en boucle. C'est pour ça que. Parce que la photo ne se casse pas, c'est il y a aussi cet aspect de boucle temporelle
du plan qui se répète. Witch de Sailor Manula. Donc effectivement, on est dans un univers aussi fantasmagorique. Alors, j'aimerais bien évoquer autre chose dont on voulait parler, qui est l'utilisation des acteurs, notamment Kyle MacLachlan, qui là donc 3-4 incarnations.
5 incarnations. Il y a Coop, il y a Dougie. Le gentil, Dougie le beauf, Evil Coop et le Coop fade de la fin. Et puis je pense que tout le monde sera d'accord ici pour dire qu'il est assez exceptionnel dans tous les rôles, même le mini Dougie beauf qu'on voit 5 minutes. Finalement, dans ces 4 autres rôles, il est très convaincant, quoi. Il arrive vraiment à faire passer une palette d'émotions assez différentes. Donc c'est vrai que Lynch, surtout que d'habitude Lynch joue plutôt sur la dualité et les changements d'identité, joue sur, généralement sur deux registres. Là on a quand même une palette qui se divise en cinq embranchements. C'est, je pense qu'il a fait fort, mais Inland Empire était déjà, j'ai envie de dire, un premier pied vers ce truc où les identités se fondent et où les niveaux de réalité étaient déjà, je sais plus, il y a 7 ou 8 niveaux de réalité dans Inland Empire qui s'entremêlent et qui forment des boucles, et faut essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Et là, il y a aussi pas mal de travail à faire.
Je pense qu'il y a un immense cadeau fait à son acteur aussi. Il y a une espèce de paradoxe, parce que d'un côté, on a une façon de... Enfin, dans le factuel, on a une façon de sacrifier le personnage de Dale Cooper et de le voir très très peu, et d'avoir pleinement à l'écran Kyle MacLachlan durant dans de multiples rôles. Je trouve ça assez rigolo, ce rapport entre un Dale Cooper quasi absent et un Kyle MacLachlan partout.
C'est ça.
Et oui, mais c'est assez intéressant tout le monde, pour les autres acteurs. Par exemple, Naomi Watts, qui est un peu en retrait dans sa carrière. Enfin, je ne sais pas dans quel film dernièrement on peut citer Naomi Watts.
Diana.
Voilà, mais qui a mais vu,
vrai,
qui
a vu Diana, passé à autre chose. On la voit moins.
Voilà. Et justement, là dans la série, elle est super bien en fait. Son personnage est très bien écrit, mais surtout elle l'interprète de manière ultra convaincante. On sent qu'elle a ses propres priorités et son histoire avec le Dougie Beauf, etc. Et justement, elle change au contexte du nouveau Dougie. Et justement, Naomi Watts arrive bien à montrer cette évolution, etc. Et c'est une actrice qui est hyper sous-estimée. Enfin, quand on regarde la saison 3, on se rend compte que sa carrière n'est pas à la hauteur de ce qu'elle
a. Elle a quand même eu son âge d'or, hein, Naomi Watts.
Oui, oui, hein, vraiment.
King Kong. Au début, ce personnage, tu la sens vénale. Dès qu'elle entend l'argent que Dougie a gagné, là, elle est aux aguets et tout ça.
Puis dès qu'il a trois pectoraux.
Voilà, c'est ça. Et au fur et à mesure, au contact de Dougie, justement, il y a son humanité qui ressort. Et il y a une scène aussi assez marrante et révélatrice. C'est quand on la voit face aux deux malfrats et qu'elle leur parle de l'état du monde, etc., que le monde part en couille, etc., mais alors qu'elle y croit pas une seconde à son discours.
Ouais, ça.
Et elle est là, mais franchement, vous avez vu et tout.
Mais un côté Skyler, je trouve.
Oui, un peu ce côté Skyler White, ouais. Sauf que Skyler.
Breaking Bad,
la pauvre, elle en prenait plein la tête, mais en fait, c'était la victime, quoi. Alors que là, elle est un peu plus active. Mais elle trouve l'amour finalement, elle tombe amoureuse de Dougie.
D'un tout le pas, donc.
Oui,
une fausse incarnation
elle,
de.
Oui, mais.
Ça m'interroge quand même cette vision de la femme qui est dans Twin Peaks.
Mais non, mais tu sens, Lynch a toujours été problématique dans cette vision-là.
La vision de la femme chez Lynch, elle est plurielle, donc on peut pas non plus être catégorique.
C'est vrai que je voudrais peut-être dire un truc sur ce petit détail qui n'en est pas un. C'est vrai que quand j'ai regardé surtout les premiers épisodes, je me suis dit. Il prend quand même un malin plaisir à filmer les courbes des femmes, à filmer leur cul. Les femmes sont la plupart du temps très moulées.
Tamara, qui marche comme une mannequin.
Comme il le dit, il est devenu mou, mais pas là où ça compte.
Il y a quand même ce côté un peu vieux fripon. Même la copine provisoire de Gordon Cole.
De Gordon Cole. Chez Lynch.
C'est pas beauf, non ?
C'est pas beauf, mais il assume sa libidinosité. Je sais pas.
Mais comme tous les artistes, à part un certain âge.
Comme dirait la Twitter, il est problématique.
Je sais pas, genre, non, mais il y a plein d'artistes, genre, des sculptures, des trucs, à partir d'un certain âge.
Il aime les muses. Il aime les muses.
Voilà, l'artiste qui aime les muses. Rodin, ou des
gens comme ça. Il y a de la dérision aussi, quand même. Dans l'hôtel où il est complètement.
Oui, il en joue totalement de son image.
Française, là, c'est
la femme qui minote beaucoup, qui se
torque. Oui, puis lui, il est là avec les yeux rieurs, il est là, il lui sert du vin.
Il est gaga, quoi, tu vois.
Il est là, il sait que ce soir il va serrer, quoi. Il est là,
ouais.
Après, il y a l'autre qui arrive et qui dit, oh putain,
il n'y aura pas joie. Non, mais c'est vrai qu'après, non, il y a des beaux personnages féminins, évidemment.
Diane, c'est un personnage quand même assez.
Il y a Diane, ouais, qui du coup qui est très ambigu pendant toute la série, on finit
parce qu'elle est sublimée comme les autres, mais en même temps elle a
son apparition est extraordinaire,
mais elle est sublimée un peu, voilà, elle se retourne, il y a ce côté emblématique, iconique, et en même temps hollywoodien carrément, Hitchcockien même,
ouais.
et en même temps il il offre un, voilà, elle a du caractère, il la montre tout de suite, elle se met en opposition face au monde, au monde des hommes, quoi, en gros. Elle insulte, dès qu'il y a quelqu'un qui lui parle, elle l'insulte, c'est elle qui décide, etc. Mais, comme avec Dougie, on apprendra que c'est pas Diane, et que finalement c'est une incarnation de Diane.
C'est pas pour le personnage de Naomi Watts, d'ailleurs, on sent que c'est elle qui domine de toute façon la relation avec Dougie, elle parle à un moment à des gens qui ont pris à qui Dougie devait de l'argent. Justement,
oui, bah c'est la scène dont je parlais tout à l'heure. Mais elle change pas totalement, puisque quand les Mitchum Brothers arrivent dans la maison avec le gym set et la voiture, là tu sens qu'il y a les yeux qui brillent et elle est là.
Elle accepte tous les cadeaux.
Ah oui, oui. Et d'ailleurs, excuse-moi, juste un dernier truc, un petit détail assez marrant, c'est que j'ai lu sur internet, c'est que le personnage s'appelle Sonny Jim, le fils, et en fait c'est Son Need Jim. Et à la fin, il a son gym set. Voilà, c'était.
Non, je trouve que le personnage évolue effectivement. Le personnage de Naomi Watts, elle évolue de la méfiance. En fait, c'est vrai qu'on est vachement méfiant vis-à-vis d'elle, à une espèce de pêche et d'énergie où t'as l'impression qu'elle prend tout en main. Et effectivement, on passe d'une espèce de personnage de stéréotype de la femme au foyer. Attendant son cadre dynamique tous les soirs, au côté.
Est-ce que ce personnage n'est pas comme ça en réaction au fait que le Dougie Beauf la trompait et puis était quelqu'un certainement aussi presque.
Aussi, mais après la dernière image où on la voit, où il y a ce Dougie qui apparaît, enfin la famille reconstituée,
c'est un faux happy end. Hein.
Mais est-ce que c'est pas ironique?
Non, c'est le seul vrai happy end pour moi. Mais...
Est-ce que ça fait pas scène de sitcom
Si, mais
il joue à la maison. Quoi,
il a voulu nous donner un cookie, Lynch, là.
Est-ce qu'on va parler de Judy du coup? Est-ce qu'on va parler de Judy?
Bah, il faut, hein.
Judy, c'est le mal.
Mais
c'est une femme.
Pourquoi le mal a un prénom féminin?
C'est Joe Day. Et ils ont dit que ça s'est transformé en Judy, mais c'est juste un nom.
C'est une femme.
Bon, allez, tu veux nous parler de Crowley et de... C'est toi le spécialiste.
Par contre, s'il y a un truc dont on peut. On se demandait les liens entre toutes les œuvres de Lynch, etc. S'il y a un fil rouge qui est également là dans Twin Peaks, c'est vraiment une interrogation sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir du mal dans le monde, quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'on perçoit, la domination du mal, comment il évolue, comment il est, est-ce qu'il est présent de manière infinie, est-ce qu'il est présent de manière définitive, à travers les changements changements de statut des personnages, même, c'est-à-dire un personnage négatif qui devient un personnage positif, est-ce qu'il a droit à la rédemption ou pas, est-ce que le mal domine le monde, ça c'est un truc qui apparaît mais pleinement dans Twin Peaks 3, quoi.
Alors je sais que, on en parlait hier avec Victor, déjà c'est intéressant qu'il ait mis le mal, l'émergence du mal à un moment qui est, les expérimentations atomiques, là c'est en quelle année? Dans 53, je sais plus.
Je sais plus.
En tout cas, on est dans les années 50 et vraiment dans la peur du nucléaire.
Et après, la peur du nucléaire qui se répand dans tous les recoins du monde et va venir contaminer les êtres un peu partout, parce qu'on voit des œufs aussi qui se dirigent dans le monde entier. Et je pense que tu avais des trucs à dire sur le fait qu'il y a un contexte années 50.
Ça me semblait extrêmement générationnel, puisqu'on est effectivement dans ces années 50, dans la peur de l'atome, dans une paranoïa aux États-Unis, qu'on retrouve dans beaucoup de films de science-fiction de l'époque. Et du coup, ça m'interrogeait sur le fait que Lynch propose l'origine du mal dans cet épisode 8, dans ces années-là. Et on fasse quelque chose finalement aussi de très générationnel, parce que finalement l'origine du mal, il aurait pu la remonter beaucoup plus en amont. On parle de feu, pourquoi pas aux hommes préhistoriques.
Mais c'est par rapport à lui aussi.
Donc voilà, il se met dans... Oui,
c'est pas
dans
vrai que c'est lié à l'électricité.
Oui, c'est lié à l'électricité, mais c'est l'atome. Du coup, oui. Et du coup, il se met dans des problématiques qui sont extrêmement générationnelles, et j'ai l'impression, et ça rejoint ce que je disais sur le fait que la génération adolescente de Twin Peaks était un peu vue comme une espèce de génération qui se sacrifie elle-même, qui est prête finalement, qui fait un peu n'importe quoi, sur le côté très générationnel en tout cas de cette saison 3, sur des gens qui ont grandi dans les années 50.
Donc, Efren, oui, mais justement, comme l'épisode 8 le montre, justement, David Lynch, dans tous ses films, ça a toujours été un peu ça, enfin, il a toujours dépeint sa génération, enfin, sa vision de la vie. C'est pour ça que ça se passe dans les banlieues, comme dans la banlieue où lui, il a grandi, etc. Et c'est pour ça qu'il y a ce rapport à la télé, au soap, etc. Mais
c'est toujours avec un univers très, très industriel. On sent que l'époque industrielle, électricité et tout ça
ouais, voilà. Est au centre de son univers. Et justement, par exemple, l'épisode 8, la deuxième partie, on peut même le voir comme si c'était un épisode de... Ah merde, j'ai oublié cette série. La série des années 50,
la quatrième dimension.
Voilà, la quatrième dimension. On pourrait même le voir comme un épisode de la quatrième dimension, etc. Et justement, le mal qu'il dépeint, c'est le mal de sa génération, le mal d'après la seconde guerre, mais toujours un mal qui touche les Américains comme ça, de classe moyenne comme ça, qui touche les gens lambda. Et c'est un peu comme dans le cinéma de William Friedkin, qui est un peu contemporain. Il y a toujours aussi ce mal qui rentre chez les gens lambda et on ne sait pas d'où il vient.
Alors, je ne sais pas si vous allez me le confirmer, je crois qu'il y a dans l'épisode 8, il y a deux dates. Il y a deux dates qui sont mentionnées par deux fois. Il y a d'abord l'expérimentation atomique, et je crois que la deuxième date, c'est la mort de Marilyn Monroe. Je crois qu'il y a deux dates qui sont. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie justement, mais par rapport à la notion de mythologie américaine, ça peut être intéressant à creuser aussi, je pense.
C'est vrai que le projet de base de Twin Peaks et de Lynch et Frost, c'était d'adapter une série autour de la mort de Marilyn Monroe. Part, c'est quelque chose qui a toujours hanté, je pense, Lynch, peut-être même tout son cinéma, mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose.
Il est fasciné aussi par le Hollywood classique, c'est pour ça qu'il a fait Mulholland Drive.
Alors, avec d'un côté le glamour et de l'autre côté la bombe atomique.
C'est ça.
Et on parlait du mal tout à l'heure, et je trouve intéressant qu'il montre ce mal insidieux, mais pas forcément que par des accès de violence. Il y a aussi les personnages foncièrement abrutis, quoi. Ou par exemple, c'est les trois flics là qu'on voit.
Les
trois stooges là qui sont là. Et,
ils sont pas méchants en même temps.
Ils sont pas méchants, mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Et justement, ils sont tellement incompétents et cons qu'ils passent des fois à côté de choses.
Il y en a beaucoup dans les forces de l'ordre. Regarde l'assistant du FBI.
Mais justement, voilà, c'est ça, ce genre de personnage là. Et c'est aussi une vision du mal. Qui est intéressant de voir, c'est que c'est des crétins et qui sont en place.
Il dépeint aussi l'Amérique profonde, du coup, effectivement, il l'aime, mais des crétins, il y a des gens de. Enfin voilà, qui sont.
Ouais, mais les gars du FBI, c'est pas l'Amérique profonde.
Ouais, mais il aime l'humour et il aime la placer un petit peu partout, quoi.
Oui.
Le film a été tourné en 2015-2016, donc avant l'élection de Trump, mais c'est vrai que. Dans l'Amérique telle qu'on la voit aujourd'hui, c'est vrai qu'une série comme Twin Peaks, mine de rien, représente quelque chose, je trouve, de l'état du pays aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois que c'est dans le dossier des cahiers de juillet, il y a un article qui fait un peu une référence à ça, quelque part. Ouais. Cette série, cette troisième saison, tombe bien par rapport à l'Amérique de Donald Trump, quoi. C'est-à-dire qu'on sent dans cette Amérique, avec des personnages un peu paumés, dans cette violence extrême aussi, à certaines choses, il y a quelque chose qui rime un petit peu, je trouve, avec...
Ça va être le nouveau en septembre, quoi. On va trouver beaucoup de choses qui.
D'ailleurs, il y a le couple Tim Ross, Jennifer Jason Leigh, c'est vraiment le couple qui donne les répliques les plus politiques dans leur dialogue à Twin Peaks, en fait. Régulièrement, ils ont des dialogues sur l'état du monde et de manière ironique, de manière extrêmement acerbe, et je trouve qu'ils rendent vraiment, vraiment compte de ce que c'est que la manière de
Lynch qu'aborde les États-Unis.
Justement, ces deux persos et Richard Horne, c'est eux qui voyagent, enfin, qui vont qui comme ça défrichent le paysage. Et qui nous mènent dans des lieux et des endroits qui sont propres à l'Amérique justement profonde, etc. Richard Horne, lui, quand il passe dans les endroits, enfin tout ce qu'il fait, quand il tue l'enfant, quand il va dans le truc, il passe à chaque fois dans des endroits où on nous dépeint des tableaux un peu de désolation de l'Amérique profonde, des choses comme ça, genre.
Là où la première série, en restant à Twin Peaks, ne se posait en tout cas pas du tout comme portrait de l'Amérique. Enfin, c'est jamais l'impression qu'on a.
De l'adolescence quand même,
de l'adolescence.
Du coup, il restait Twin Peaks quand même comme une métaphore totale de l'Amérique. Oui. Après, c'est étonnant, enfin, c'est intéressant qu'il ait besoin de sortir en fait de Twin Peaks pour dire voilà l'état de l'Amérique aujourd'hui. On ne peut pas se contenter d'une position géographique pour décrire ce qu'est l'Amérique, et il faut en sortir en fait. Il faut aller partout, dans tous les territoires.
Mais même quand il va, par exemple, Richard Horne, je sais plus chez qui, pour demander de l'argent à sa grand-mère, et qu'il voit. l'autre handicapé devant son truc, c'est assez désolant. Et c'est, et la scène est, est assez triste en fait, ce qui se passe dans cette scène. Et comme ça, à chaque fois, il va chez des gens ou chez la fille qui habite dans une caravane et tout. À chaque fois, et
Lynch propage la violence.
Ouais, voilà. Et Lynch reste souvent en plan fixe dans ces endroits et il nous laisse observer comme ça longtemps. Par exemple, la scène de la caravane où il balade dans sa caravane, ça dure longtemps. C'est qu'en fait, on voit pas.
La porte est fermée.
Voilà, on voit juste la caravane, mais ça dure longtemps. C'est-à-dire, on a le temps de voir les feuilles dans les arbres bouger et tout. Et c'est-à-dire, et il nous dépeint comme ça des tableaux. Et il y a une forte valeur picturale comme ça à tout ce qu'il met pour nous donner comme des portraits, des instantanés de l'Amérique actuelle.
C'est vrai que le moment peut-être le plus social de la série, c'est quand Harry Dean Stanton dit à un de ses employés de ne pas faire, je crois, de terre sup. Enfin, il y a un moment, il y a une scène très belle d'ailleurs, où il nous dit quand même quelque chose aussi d'une certaine misère américaine d'aujourd'hui.
Absolument. Il dit qu'il n'a pas besoin de payer son loyer parce qu'il fait des choses pour la communauté. Et donc, il y a un modèle politique en fait qui se joue là et sur les États-Unis actuels où on sent que cette personne n'arrive pas à joindre les deux bouts et donc est obligée de courir plusieurs.
Puis aussi l'affaire de Norma qui maintenant se multiplie, c'est-à-dire qu'elle a réussi à faire fortune à travers son nouveau compagnon, en tout cas provisoire. Il y a aussi une longue discussion, une longue négociation.
Elle refuse quelque part la franchise.
Pardon ?
Elle refuse la franchise quelque part quoi. Après, elle veut.
C'est ça, elle refuse.
Elle veut garder son nom. Elle veut garder son identité finalement, elle vend pas son âme en fait.
Donc il y a quand même une part de critique quand même, il y a une part de critique.
Mais ce qui est très beau justement, c'est que ça passe sans démonstration quoi. Enfin, c'est vraiment
c'est par
petites touches comme ça.
Puis cette scène en plus elle est vraiment bien montée, bien mise en scène parce que t'as, d'un côté t'as Ed qui attend, qui est là et qui croit que sa vie lui échappe encore et qu'elle va lui échapper encore une fois. Et à côté, il y a Norma qui met un terme à sa relation finalement business et amoureuse. Et puis après, elle revient vers lui. Et nous, on n'est que du point de vue de Ed à un moment. Et puis on la voit qui revient comme ça dans le.
J'avoue avoir un moment pensé qu'il allait se suicider.
Moi, je pensais qu'il allait finir encore seul.
Et que
sa relation avec Norma était complètement maudite. Et finalement, ils nous disent non.
Mais même le perso politique, c'est aussi. Merde, j'ai oublié son nom. Quand on voit qu'il fait le show sur Internet.
Jacobi.
Il raconte des tas de choses sur l'Amérique. Genre, c'est même.
Oui, mais c'est une espèce de parodie.
C'est une parodie des trucs complotistes.
Mais son discours est vide. Le discours de Jacobi dans cette saison me semble.
Il dit des choses que tu peux entendre sur Internet.
Comment s'appelle Nadine, il trouve un sens.
Voilà, et elle, il trouve un sens parce que.
Ce qui n'est pas forcément une interrogation.
Oui, mais justement, il montre quelque chose. Alors, une dame qui est confrontée comme ça à son écran, elle regarde le truc et elle absorbe comme ça du vide, du n'importe quoi.
Oui, c'est ça, c'est
le truc. Et ça, c'est assez politique.
C'est des banalités qu'il dit, c'est des grosses banalités. Genre, prends ta truc et démêle ta merde
pour rendre des pelles en or.
S'il y a justement un personnage qui passe du côté un peu foufou débonnaire au personnage qui a l'air un peu cinglé, aboli, limite dangereux, c'est quand même le docteur Jacobi qui passe d'un stade à l'autre.
Oui.
Alors, peut-être pour conclure, pour vous, ça va être quoi la suite pour Twin Peaks
Moi, je pense que ce ne serait pas forcément utile de relancer la machine. Je pense que c'est bien aussi de... Voilà, il nous a offert un vrai cadeau. On a été contemporains du retour assez inespéré de cette série. On a vu toutes ces choses. Il y a eu vraiment un suivi. C'est vrai que là, pour le coup, je crois qu'il y avait vraiment un intérêt à suivre, à attendre épisode après épisode plutôt que de tout mater d'un coup. Donc, je pense que... Cette fin, pour moi, vraiment très puissante, qui ne résout rien, je pense que c'est même dans son aspect déceptif, je pense que ça peut être une fin parfaite. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter non plus dans le déploiement de mystère.
Alors moi, par rapport à cette fin, en fait, je suis assez... j'adore la fin. C'est une fin qui pourrait rester la fin définitive et j'en serais très heureux. Et pourtant, il y a quand même une petite part de moi qui a envie d'avoir un peu plus de satisfaction. Déjà, ne serait-ce que parce que j'aimerais en voir plus, j'ai pas envie de quitter ce monde tout de suite. Je pense qu'il y a aussi pas mal de possibilités à explorer. Il pourrait très bien en faire une saison 4. Et puis, lui-même semble en avoir un petit peu l'envie. Et si la chaîne en a l'envie et les fans en ont l'envie, il a dit qu'il le ferait. En même temps, juste pour le côté... affectif, j'ai envie de voir Audrey sauvée.
Alors moi déjà, je suis en état de déprime intense parce que j'ai plus d'épisodes. Et puis voilà, je veux pas me réveiller. Et moi, je pense que quel que soit le nom qu'aura cette une possible quatrième saison, elle peut peut-être même pas avoir le nom de Twin Peaks, mais je
ça
pense
qu'elle aura Odessa. Non
il a, je trouve que la série lance tellement d'embranchements de tous côtés et pour moi signifie tellement ce que c'est que la liberté totale au niveau de l'art que je pense qu'il peut poursuivre quelque chose. Et puis ça s'appellera peut-être Twin Peaks 4, peut-être pas.
Le
re-retour. Mais voilà, moi je veux encore quelque chose de ce type et je pense que voilà, ça prouve tellement que Lynch est dans un état de comment dire, d'inspiration intense, de l'inspiration. Enfin, finalement, c'est juste ton battement de cœur, quoi. Enfin, donc, je pense que son cœur bat encore de manière assez géniale et voilà, j'en veux encore.
Moi, je suis satisfait de la fin quand même parce que après tout ce que la série décrit comme un état du monde, même si c'est un monde mental, la série se finit en fait comme un film que j'ai apprécié cette année aussi et qui est un peu dans cette veine, c'est Creepy, qui se finit sur un cri également.
De Kiyoshi Kurosawa
et qui a un peu en fait une fin similaire. Enfin, le retour à une espèce de réel, enfin de d'endroit morne comme ça, qui est vraiment une bonne fin car elle nous permet de en quelque sorte de raffronter la violence et le vide du réel en fait, contrairement à ce que proposait David Lynch pendant ses 18 épisodes. Et je ne serais pas contre une saison 4, même si je trouve que c'est pas indispensable. Mais ça permettrait quand même de continuer mes théories sur la magie et l'occultisme chez David Lynch.
Mais tu peux dire rien de moi.
Mais je veux.
Jérémy.
Bon, un peu pareil que tout le monde. Je suis bien content de la fin quand même. En fait, d'un côté, j'ai pas envie d'une suite parce que j'ai peur justement de ce qu'il va en faire. Même si j'ai confiance, mais. Mais voilà, c'est une sorte de petit trésor cette saison 3 et ça m'énerve qu'on y touche en fait, qu'on continue. Mais d'un autre côté, voilà.
Tu vas devenir comme ceux qui n'aiment pas la saison 3 parce qu'ils aiment
non,
ça.
Non, parce que s'il y a une saison 4, parce que là, si demain on m'annonce qu'il y a une saison 4, je vais faire la danse de la. Voilà, la danse de la pluie. Mais,
parce que la fin de la saison 3, finalement, elle avait quelque chose de d'éblouissant.
Mais oui, non, mais voilà, et j'en veux encore, mais après, j'ai envie de voir Lynch faire des choses, quoi qu'il arrive.
Ah, c'est ça la question, c'est maintenant.
Voilà. J'ai pas envie de le voir arrêter de faire du cinéma, de la télé, de continuer son art, même de la musique, de la peinture. Mais je préfère
un peu moins la peinture.
Ah,
moi, j'aime ce qu'il fait.
Mais je préfère le voir, voilà, j'ai envie de voir ce qu'il va faire. Et si c'est une saison 4 de Twin Peaks, vas-y, hein. Allez-y, les gars.
Non, mais moi je suis comme Jérémy, comme un peu vous tous, hein, si il décide de passer 20 heures de plus à Twin Peaks,
il sera quoi.
Je le suivrai avec plaisir. Après, je suis surtout curieux de savoir quelle va être la suite pour Lynch. Moi j'avais cru comprendre que tourner cette saison lui avait donné envie de reprendre le cinéma. Donc s'il fait un film, une série, quoi que ce soit, je serais très, très curieux et très preneur de voir la suite de l'œuvre Lynchienne qui semble être.
Surtout qu'on voit qu'il est quand même encore en pleine forme, aussi bien physiquement comme acteur que dans sa volonté effectivement de faire un film au long cours, parce que c'est vrai que là il explose vraiment les frontières entre cinéma, télévision. La question n'est même plus vraiment celle-là, quoi. Est-ce que cette facture télévisuelle, est-ce que ça donne des leçons au cinéma d'aujourd'hui? Donc voilà, ça montre à quel point, à quel point aujourd'hui il compte encore et si ça lui donne envie de recommencer à faire des films régulièrement,
la preuve, parce que ça sera top 1 en cinéma, top 1 musique, top 1 série.
Il se contente pas de poursuivre, en fait, il ouvre de nouvelles portes, donc c'est vraiment pas le moment d'arrêter.
Non, on n'a pas envie qu'il arrête. Quoi.
Bon, donc ce podcast est à suivre, peut-être. Yeah.
Took a picture.